France Inter.
Aujourd'hui, engagement militant. Comment lutter sans s'épuiser? Raconté par
Hélène Balazard, chercheuse en sciences politiques à l'ENTPE à Vaux-en-Velin.
Et Simon Cotin-Marx, sociologue et maître de conférence au CNAM.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Un jour de 1974, dans une petite clinique new-yorkaise pour patients sans ressources, le psychologue Herbert Freudenberger s'inquiète en silence. Il observe ses collègues, souvent de jeunes bénévoles idéalistes, venus soigner les exclus de la société. Ils ont commencé avec une énergie folle, une foi presque militante, mais au fil des semaines, il les voit changer. Leurs yeux se creusent, l'enthousiasme laisse place à la lassitude. Ils ne sont pas malades au sens classique du terme, et pourtant, ils ne tiennent plus, comme des flammes trop vives qui finissent par s'éteindre. Faute de combustible. Et c'est là, en décrivant ce phénomène dans un article, que Freudenberger utilise pour la première fois le mot « burn-out », brûler jusqu'au bout, se consumer de l'intérieur. Et l'image va marquer les esprits. Ce qu'il décrit n'est pas totalement nouveau. Bien avant le mot, on parlait déjà de surmenage, d'épuisement nerveux, de fatigue morale. Au XVIIIe siècle, des médecins s'inquiétaient de ces vies professionnelles qui s'abîmaient sous la pression du travail. Dans les années 50 et 60 en Europe, certains psychiatres avaient déjà évoqué l'épuisement professionnel sans que cela trouve vraiment d'écho. Avec Freudenberger et puis avec les psychologues Christina Malache et Marie Gomez, le concept prend corps et très vite, le terme sort du siècle des chercheurs pour entrer dans la société. Les soignants, les enseignants, les travailleurs sociaux, puis les salariés de tous les secteurs commencent à se reconnaître dans ce mot. Le burn-out devient une manière de nommer une souffrance que les catégories psychiatriques traditionnelles peinaient à qualifier. Et pourtant, la reconnaissance officielle tarde. Le burn-out ne figure pas dans le DSM, le grand manuel de la psychiatrie. En France, l'Académie de médecine se montre prudente. Ce n'est pas une maladie à part entière, disent certains, mais plutôt une combinaison de stress, de dépression, de troubles de l'adaptation. L'Organisation mondiale de la santé, elle franchit un pas en 2019 dans la classification internationale des maladies. Elle décrit le burn-out comme un syndrome lié au stress professionnel chronique qui n'a pas été géré avec succès. Une avancée, mais encore une définition restrictive cantonnée au monde du travail. Aujourd'hui, le mot est partout, il a dépassé le cadre médical, on parle de burn-out parental, étudiant, militant, on l'invoque parfois à tort et à travers, mais derrière cette inflation se cache une réalité tenace, celle d'un système de travail qui, pour beaucoup, consume les individus jusqu'à la corde. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Au début, on ne se protège pas. On y va corps et âme, hein. Mais que ça soit dans le monde militant ou que ça soit au travail, au début, quand on commence quelque chose, on y va toujours à fond. Et à un moment où je me suis rendu compte que je pouvais être un peu agressive parce que fatiguée, que je me suis dit, oula, ce que tu apportes, c'est pas du positif.
Parce que c'est quand même un milieu qui est épuisant, parce que émotionnellement on s'investit, mentalement on s'investit, parfois physiquement. Et je pense pas qu'on puisse, dans l'action directe, prendre la hauteur nécessaire pour réfléchir et avancer et proposer d'autres choses.
Sortir de cette posture de sauveur, de héros.
Voilà le témoignage de militants à Briançon, à la frontière franco-italienne, vidéo de la chaîne YouTube Tous Migrants, Hélène Balazard et Simon Cotin-Marx. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes les auteurs d'un livre, Burnout militant, comment s'engager sans se cramer. C'est aux éditions Payot. Le concept est donc né il y a une cinquantaine d'années à peu près, vous êtes d'accord là-dessus ?
Oui, oui. D'abord, donc, le concept de burn-out, comme vous l'avez dit, voilà, c'est né aux États-Unis, hein, et c'est surtout dans les sciences du travail. On parle de burn-out pour parler d'épuisement professionnel. Et dans les années 90, il y a des chercheuses américaines qui commencent à se dire, bah, tiens, on peut aussi parler de burn-out pour le monde militant. Ouais. Et du coup, c'est le concept qu'on reprend, voilà, qui se traduit par épuisement en français.
Et en France, c'est arrivé à quel moment alors exactement ?
Et en France, on a commencé à en parler, surtout en 2019, hein, avec Anaïs Bourdet, qui était une militante féministe qui avait un tome Tumblr, Paytashneck, et d'autres collectifs, hein, comme le collectif contre le cyberharcèlement, un collectif féministe, encore une fois. Voilà, donc, et après, il y a aussi des figures comme Corinne Dehas, Rokeya Diallo, qui ont commencé à parler de burn-out. Donc voilà, donc c'est vraiment le mouvement d'abord féministe qui a commencé à parler de cette notion. Voilà, on peut imaginer pourquoi, parce que voilà, déjà, elle s'occupe de questions difficiles, hein, venir en femmes qui sont victimes de violences.
Et vécu elles-mêmes.
Elles l'ont vécu parfois elles-mêmes. Et en plus de ça, bah, clairement aussi, c'est des personnes, enfin des militantes qui sont victimes de violences hein, de la part d'extrême droite, de trolls, notamment sur les réseaux sociaux.
Hélène Balazar, ce concept, donc, cette idée de brûler, de se consumer, ça exprime bien quand même ce qui est ressenti par les personnes qui souffrent de burn-out.
Oui, tout à fait. Il y a on définit souvent le burn-out avec trois symptômes qui sont l'épuisement physique et émotionnel. Et c'est là qu'on a vraiment cette notion de brûler. Mais il y a aussi l'humain en nous qui brûle. Parce que le deuxième symptôme, c'est la déshumanisation des relations interpersonnelles. Et enfin, c'est la perte, la baisse, voire la perte du sens de servir à quelque chose, de son utilité. Parfois, ce burn-out, il devient collectif parce qu'on observe, et c'est ça qui a aussi motivé ce livre, des collectifs qui explosent.
Alors justement, c'est le démarrage du livre, c'est ce qui a motivé votre travail avec un collectif écologiste où presque tous les membres ont fini en burn-out. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette scène, justement ?
Que c'était bien dommage, en fait, que des personnes qui essayent de lutter pour un monde meilleur, en l'occurrence, les luttes écologistes pour préserver notre planète, que ces gens qui s'engagent sans être rémunérés, bénévolement, dans des associations, pour défendre un monde meilleur, en viennent à s'épuiser. C'est ça qui marque. Et ce qui marque aussi, c'est quand il y a des causes qui sont externes à ces collectifs, des causes qui sont des fois aussi individuelles, mais il y a aussi beaucoup de causes internes à ces collectifs qui, en fait, au final, explosent parce qu'ils sont mal organisés et parce qu'ils reproduisent des violences et des dominations qu'ils sont censés combattre.
Ouais, on en reparlera, on y reviendra évidemment. Simon Cotamarx, oui, c'est vrai que c'est assez marquant de voir des personnes qui, au départ, sont animées d'une énergie incroyable et qui, tout d'un coup, s'effondrent.
Oui, c'est le principe aussi du burn-out. Les gens qui sont souvent victimes du burn-out, c'est des gens qui sont extrêmement engagés, aussi bien dans le travail que dans leur militantisme. Et si on a fait ce livre-là, c'est parce qu'on a besoin de ces gens qui sont passionnés, engagés, qui ont envie de changer le monde. Et du coup, le livre, c'est aussi un partage d'une culture militante pour imaginer comment on peut faire pour militer et être plus endurant dans cet engagement. Parce que l'association dont on a parlé il y a 3 ans, on a rencontré une association qui a explosé, c'est-à-dire que tous ses membres se sont arrêtés. Ouais. L'organisation s'est dissoute, après, elle s'est reformée, heureusement. On a besoin d'eux, on a besoin d'elles. Et c'est pour ça qu'on a fait ce livre.
Est-ce que vous-même, vous avez partagé cette expérience de militant au point parfois même d'être au bord du burn-out ou carrément dedans ?
Je pense avec Hélène, tous les deux, on a de nombreux engagements, pour le droit au logement, contre la précarité, pour l'écologie, dans le syndicalisme.
Bref. Donc vous êtes très actif.
On est actif, on l'a été, mais clairement, ce n'est pas notre expérience personnelle, même si on a été parfois déçus ou découragés par certains de nos engagements. On n'a jamais été victime nous-mêmes de burn-out militant.
Hélène de Balazard. Burn-out militant, peut-être pas, mais c'est vrai que moi, écrire ce livre récemment, je ne l'ai pas partagé encore avec Simon, moi j'ai fait un vrai burn-out plutôt professionnel il y a 13 ans et en fait j'étais très engagée aussi, c'était après ma thèse, j'avais commencé un nouveau boulot, je m'étais blessée gravement, il y avait tout un tas de causes, mais j'étais aussi très engagée dans des milieux où j'avais l'impression de jamais en faire assez et où il y avait une grande pureté militante et dernièrement, je ne pensais pas du tout que c'était un des facteurs, pour le coup, mon engagement de l'époque. Mais vraiment, très récemment, je me suis dit que ça devait quand même faire partie de ces facteurs. Parce qu'après ça, le fait notamment d'avoir été handicapée pendant assez longtemps à cause de ma blessure, ça m'aidait à me dire « Ok, maintenant, j'ai une bonne justification pour en faire moins dans mes engagements.
» On va écouter la voix d'Anaïs Bourdet, vous l'évoquiez tout à l'heure, militante féministe française. On va l'écouter par Jupiter, c'était en mars 2021.
Souvent dans le burn-out professionnel, il y a une notion d'une perte de sens en fait qui amène souvent au burn-out. Là, en l'occurrence, on peut pas dire qu'on perde du sens. Plus on s'engage, plus il y a de sens en fait. Mais par contre, c'est une fatigue morale extrême entre la réception des témoignages qui est très lourde parce qu'il faut accueillir cette parole-là, le harcèlement que ça génère aussi, puisque dès qu'on est féministe un petit peu visible comme je l'ai été, on est harcelé quotidiennement. Et puis c'est aussi une lutte incarnée, c'est-à-dire qu'on se lance pas dans ces combats-là. Totalement par hasard, en général on les incarne, on a vécu les violences qu'on dénonce, donc c'est très difficile de prendre du recul entre ce qu'on a vécu, ce qu'on vivra, ce que les personnes qui témoignent vivent, puis encore une fois le harcèlement hypermassif qu'on subit dès qu'on se positionne sur ces sujets-là. Comment ? Ça amène à un craquage.
Voilà la voix d'Anaïs Bourdet qui évoque l'incarnation, Hélène Balazar. Vous insistez précisément, vous, sur le rôle du collectif plutôt que sur celui des individus.
Oui, parce qu'un des problèmes vraiment spécifiques du monde militant, c'est justement cette culture du sacrifice et du don de soi, et qui est en fait vraiment une cause, un des facteurs du burn-out militant, et pour la personne qui se sacrifie, et qui pense que c'est en étant un héros et même solitaire qu'elle va pouvoir changer le monde, et pour les personnes qui vont être autour d'elle et qui vont... souvent ces personnes-là vont avoir tendance à un peu minimiser leur rôle, voire même les écarter, voire même se rehausser en les enfonçant. Enfin voilà, c'est, donc il y a en fait un cercle vicieux en fait. Et donc notre premier chapitre, parce qu'on a structuré le livre en 3 parties et 10 chapitres, et la première partie est justement sur comment s'engager en fait individuellement et dans un collectif, et le premier chapitre revient sur il ne faut pas être un héros pour changer le monde, il faut s'organiser. Oui. Et on revient notamment sur l'histoire de Rosa Parks. Qui est, parce que bon, il y a de nombreuses histoires, bien sûr, le storytelling classique nous raconte des histoires de héros, de héroïnes. Je le vois même avec les livres des enfants où il y a tout un mouvement un peu féministe de mettre en avant des femmes héros. Mais c'est l'histoire des femmes rebelles, par exemple, et on a à chaque fois un portrait d'une personne, comme si c'était une personne qui allait pouvoir réussir à changer le monde.
En réalité, les victoires sont souvent...
Collective,
la plupart
du
temps.
Et Rosa Parks, on a retenu son acte héroïque de céder, de ne pas vouloir justement céder sa place à une personne blanche qui rentrait dans le bus. Mais en fait, elle était engagée depuis de longues années dans plusieurs organisations de mouvements des droits civiques. Ouais. Et c'était prévu le fait d'organiser un boycott. Ils attendaient l'étincelle, en fait. Et elle a été libérée le soir même de son arrestation par une des organisations dont elle était membre. Et tout était, en fait...
Alors que c'est vrai qu'on retient l'histoire d'une femme qui, tout d'un coup, un jour, dans un bus, a refusé de laisser sa place, c'est ça.
Hein. Voilà, et malheureusement, ça nous donne un peu cette image-là, c'est le chevalier blanc, c'est le héros solitaire qui va réussir. Et...
Simon Cotin, Marx, qu'est-ce que ça recouvre, cette culture du sacrifice, justement ? Il y a cette tentation aussi, finalement, chez l'individu militant qui va s'engager ?
Oui, bah, la culture du sacrifice ou du martyr, enfin, on la retrouve beaucoup dans le monde militant, parce que ouais, il y a ces figures aussi, hein, très incarnées, hein, Che Guevara, Gandhi, Rosa Parks et beaucoup d'autres, hein, qui sont des figures extrêmement inspirantes. Et souvent aussi, on a des collectifs qui se fixent des objectifs presque inatteignables. Hein, voilà, quand on s'engage, je sais pas moi, chez Alternativa ou à Justice Ensemble, bah, c'est pour changer le monde, sauver la planète, mettre fin aux inégalités.
Et, c'est vaste le monde, hein.
Voilà,
c'est lourd.
C'est vaste, et quand on se met des objectifs comme ça, finalement, bah, on peut vider la mer à la petite cuillère, on n'y arrivera jamais complètement. Et du coup, là, on se met en danger, c'est-à-dire qu'on crée les conditions, voilà, de cette culture du sacrifice.
Donc, il y a beaucoup d'attentes irréalistes, hein, pour les militants, c'est ce que vous montrez aussi. Hélène Balazar, il y a un autre facteur que vous décrivez, c'est le manque de prise en charge du bien-être par les organisations militantes. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de déni, quasiment, dans ce domaine-là ?
Parce qu'on s'engage avant tout pour aider les autres, sauver la planète, et on ne s'engage pas normalement pour soi. Ce n'est pas reconnu comme étant la cause principale à défendre, en fait. On va, même si, bien sûr, et ça on le dit, et c'est important, ça fait du bien de s'engager, on donne du sens à sa vie, face à l'éco-anxiété, c'est prouvé scientifiquement que passer à l'action, ça fait du bien, psychologiquement. Et on se fait des amis, enfin voilà, y a plein de bonnes raisons de s'engager pour soi aussi dans ces collectifs-là, mais... collectivement, ces assos, ces collectifs, les partis, les syndicats ne vont pas forcément se dire qu'il faut prévoir dans le fonctionnement du collectif de prendre soin des membres, parce qu'on n'est pas là pour ça, et on n'est pas là pour perdre du temps, entre guillemets, à ça. Et un des objectifs du livre, c'est de dire si, en fait, ça vaut le coup sur le court terme, de prendre du temps à bien accueillir les nouveaux, de prendre du temps à partager les décisions, de prendre du temps à parler des mal-être, des dysfonctionnements, des conflits.
Pour ne pas y laisser trop de plumes, finalement.
Exactement, hein. Et puis pour, en fait, préserver l'endurance militante, et on en a vraiment besoin en ce moment.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Moi, j'ai fait un gros burn-out en 2012, parce que j'ai été dans une espèce de syndrome de chevalier blanc et de militantisme sacrificiel, et avec l'idée qu'il fallait sauver le monde, mais sauf que on ne sauve pas le monde avec ses petits bras. Que c'est une tâche qui n'a pas de fin. Donc, je veux dire, on peut travailler 90 heures par semaine et puis tout va toujours mal. J'étais pas au bon endroit. Et je me suis dit, il faut que je me remette à créer. C'est à ce moment-là que j'ai publié un recueil de poèmes là, qui s'appelle Assis sur le fil et puis que j'ai décidé de faire demain.
La voix de Cyril Dion avec l'émission ADN, c'était en mars 2023. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Cyril Dion sera notre invité vendredi 17 octobre prochain. Hélène Balazar, vous êtes chercheuse en sciences politiques, Simon Cotin-Marx, sociologue. Et ensemble, vous publiez donc ce livre, Burnout, militant, comment s'engager sans se cramer. C'est publié chez Payot. Vous insistez d'ailleurs, Simon Cotin-Marx, sur le fait de dépsychologiser le burnout militant. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, souvent quand on dit « j'ai fait un burn-out » ou « tu as fait un burn-out », on a toujours tendance à dire « bah c'est parce que tu étais un peu faible ou que tu n'allais pas très bien dans ta vie ». Alors que, à l'inverse, ce que montrent les études sur le burn-out depuis les années 70, ce qu'elles montrent, c'est que si les gens font des burn-out au travail, puis aussi dans les organisations militantes, c'est bien, ce qui est en cause, c'est bien l'organisation du travail.
Oui.
Et ça, c'est important parce que c'est-à-dire qu'on peut aussi agir dessus, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens d'agir. Et donc les solutions pour éviter que les gens fassent des burn-out, eh bien, c'est de mieux organiser le travail.
Voilà. Alors justement, qu'est-ce que ça implique concrètement le fait de repenser l'organisation collective?
Bah là, on a entendu Cyril Dion, qui avait en gros le syndrome du chevalier blanc, qui faisait tout, ouais, tout le temps, qui était engagé corps et âme, 90 heures par semaine, comme il le dit. Voilà, bah dans le livre, ce qu'on raconte, on donne des exemples, notamment par exemple de Sophie Binet, qui est secrétaire générale de la Confédération Générale du Travail, un énorme syndicat, et qui milite...
La CGT.
La CGT, voilà, qui milite depuis une vingtaine d'années, et voilà, qui donne ses petites astuces. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, le dimanche, bah, elle est off, elle est plus syndicaliste, ou le soir, pareil aussi, quand les camarades ont envie de boire un apéro après une réunion, bah elle dit, bah, excusez-moi, je rentre chez moi, j'ai envie de voir ma famille. Mmh. Voilà, donc il y a ça, déjà, c'est préserver, ouais, ces espaces privés, amicaux, etc. Et ça, c'est pas juste une responsabilité individuelle. Encore une fois, c'est le collectif qui doit prendre ça en compte. Et dans le livre, on raconte d'autres exemples. Par exemple, dans l'association Nous Toutes, par exemple, elles font le choix qu'après 19h, on arrête de s'envoyer des messages WhatsApp, mmh, parce que c'est un temps privé. Voilà, chacun doit avoir un temps aussi pour se ressourcer, pour penser à autre chose. Parce que quand on milite sur des sujets qui sont graves, ça fatigue et il faut avoir des temps pour soi, des temps...
Avec des cadres pour éviter que ça déborde un petit peu de partout. Hélène Balazar, vous citez une chercheuse et politologue américaine, Elinor Ostrom, qui a développé la théorie des communs. De quoi il s'agit exactement et en quoi cette théorie peut inspirer justement les militants ?
Alors, la théorie des communs, c'est notamment le fait de penser ensemble le soin militant, de penser ensemble le bien-être individuel et collectif, que ça passe par, en fait, un sujet qui est commun. Le fait, par exemple, aussi de penser la garde des enfants, que ça soit pas juste la responsabilité des parents, mmh, mais en fait, c'est les enfants de la société, et ça doit être les collectifs aussi, qui prennent en charge le fait de se dire, pour pouvoir organiser une réunion et qu'on puisse avoir des parents, il faut qu'on pense, par exemple, à organiser une garde des enfants. C'est, enfin, ça permet, en fait, de remettre tous ces sujets qui sont un peu plus de l'intime du personnel au centre des réflexions collectives.
Donc là aussi, c'est l'idée de mettre des règles claires, en fait, c'est ça ? Pour que le collectif puisse vraiment perdurer ?
C'est mettre des règles claires et déresponsabiliser les individus. Essayer de leur faciliter le fait qu'ils aient du temps, des ressources. Alors quand les syndicats organisaient les caisses de grève, et organisent toujours, pardon, les caisses de grève, c'est aussi ça. Mmh. C'est de permettre de communaliser la charge et le besoin de ressources qu'on a, et permettre de lutter aussi contre les inégalités qui existent et qui se traduisent aussi dans le monde du militantisme. C'est plus dur de militer quand de s'engager quand on n'a pas de ressources, alors qu'on peut en retirer aussi des ressources symboliques, notamment. Et donc, comment on fait pour essayer aussi d'être solidaire à l'échelle des engagements ?
Simon Cotin-Marx, l'accueil des nouveaux, c'est un moment clé aussi. Et comment on l'organise ?
Oui, c'est vrai qu'accueillir les gens dans un nouveau collectif, c'est hyper important, parce que si les gens viennent avec des espérances et puis qu'elles sont en décalage avec celles de l'organisation, finalement, les militants sont exposés à ce qu'on appelle un conflit de valeurs. Voilà. Y a un exemple que j'aime bien citer, c'est celui d'un film, 120 battements par minute, qui est un film sur les militants d'ACT UP dans les années 90. Donc c'était des personnes qui luttaient contre le VIH et contre les personnes qui étaient responsables de sa propagation. Et dans ce film, il y a une scène assez importante où on voit voilà, des nouvelles personnes qui arrivent dans le collectif et on leur explique tout. Voilà, qui est ACT UP, d'où ça vient, comment on prend les décisions, comment vont se dérouler les débats. Voilà. Tout ça, on donne toutes les règles aux personnes, mmh. encore une fois, pour éviter qu'il y ait des conflits de valeurs, qu'il y ait des attentes qui soient déplacées par rapport à ce qui va vraiment se passer.
Et donner une place à chacun, justement, c'est un levier. Ça peut être un levier aussi contre l'épuisement ?
Oui, donner une place à chacun, pour nous, ça nous semble assez important parce que en gros, dans les collectifs, bon, ils veulent être meilleurs, sauf qu'ils ne sont pas en dehors du monde. C'est-à-dire qu'on retrouve dans les collectifs militants aussi les dominations et les inégalités qu'il y a à l'extérieur. Hein. Ouais. L'inégalité de genre entre hommes et femmes, une inégalité de richesse, hein, l'inégalité de classe, et même l'inégalité de race. Voilà. Et du coup, il faut lutter, enfin, nous sommes importants de lutter contre ces dominations et de donner une place à chacun. Et dans le livre, encore une fois, on donne plein d'exemples. C'est notamment celui de Nous Toutes. Voilà, donc c'est Caroline Dehas qui en parle. Et elle raconte qu'ils organisent une réunion, il y a quelques hommes qui sont présents, mais il y a une majorité de femmes. Sauf qu'au final, hein, quand ils ont compté le temps de parole, les hommes ont pris plus la parole que les femmes. Donc c'est quand même assez incroyable. Et donc il faut imaginer des règles hein, pour donner une place à chacun, la juste place. Et donc il y a des petites techniques comme la fermeture éclair, c'est-à-dire que si un homme prend la parole, une femme ensuite doit prendre la parole et on alterne comme ça. Et après il y a des choses aussi qui viennent du mouvement militant de très loin, de la Révolution française puis des années 70, notamment les réunions non mixtes. Ouais. Hein, parce que voilà, si on n'arrive pas à faire une réunion sans que les hommes prennent la parole tout le temps, peut-être qu'il faut les exclure de cette réunion. Ouais. Et se retrouver qu'entre femmes, qu'entre lesbiennes, qu'entre personnes racisées.
Hélène Balazar, pourquoi un débriefing après chaque action est crucial également pour faire en sorte que l'organisation militante perdure ?
Alors, elle est cruciale pour plusieurs raisons. Elle est cruciale pour déjà évaluer cette action. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Puis, dans le bien fait, il y a aussi... alors là, c'est une petite digression à un autre élément dont on va peut-être parler après, mais l'importance des célébrations. Tiens, qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qui a bien marché? Même des petits pas. Mm-hmm. C'est toujours important de se dire, là, on a bien réussi ça. Et il y a beaucoup de collectifs qui vont s'applaudir, ne serait-ce que pour se féliciter, en fait, et se dire, déjà, bravo, on a réussi à faire ça.
Ça nourrit la confiance aussi, hein, c'est ce que vous expliquez.
On donne de la confiance, ça crée un peu du collectif, une sorte de communion. Donc pour ça, c'est important. Mais il y a aussi des choses qui ne vont pas bien se passer. Il peut y avoir des situations conflictuelles, il peut y avoir des erreurs qui ont été faites. Et donc c'est hyper important pour progresser, de faire ce débriefing et pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer les prochaines actions. Donc pour ces deux raisons, c'est très important d'avoir toujours ce temps de après l'action.
Simon Cotamarc, ça.
Oui, là on est sur une émission qui parle d'écologie et il y a eu la grande manifestation de Sainte-Soline qui s'est extrêmement mal passée. Voilà, il y a des gens qui sont allés manifester contre les bassines il y a 2 ans et du coup les gens pensaient participer à des manifestations bon enfant. Hein. Il y avait plusieurs cortèges et il y a des personnes qui se sont retrouvées exposées à une violence policière vraiment...
Ils n'étaient pas du tout préparés.
Ouais, ils n'étaient pas du tout prêts. Voilà, ils se sont fait gazer, tirer dessus. Voilà, il y a eu des blessés. Voilà, c'était extrêmement traumatisant. Et c'est pour ça, après ces actions qui peuvent se passer, en fait, on pense que c'est important du coup d'échanger avec des proches ou même avec des gens qu'on ne connaît pas, de faire un point sur cette expérience, partager ce qui peut ressembler à un trauma et en parler, ça permet quand même déjà peut-être d'aller un peu mieux, en tout cas de commencer un travail sur ce qui peut nous faire souffrir psychologiquement. Quoi.
Et si malgré tout, les choses s'effondrent, comment est-ce qu'on rebondit après un burn-out alors ?
Donc c'est déjà important de prendre soin de soi, parce que si on ne prend pas suffisamment soin de soi, on est incapable en fait de prendre soin des autres et de la planète par exemple. Donc c'est important de prendre le temps de se reposer. Et pour ça, pour que le collectif perdure si quelqu'un s'effondre, c'est important que tout le collectif ne repose pas sur cette personne. Donc, en amont, c'est important de prévoir le fait qu'il y a des personnes, pour une raison ou pour une autre, vont avoir des moments de leur vie où elles vont se désengager et du coup d'avoir des organisations organiques avec, pas pyramidales, plus horizontales, où tous les rôles sont interchangeables. Quand on parlait de donner une place à chacun, je pense que derrière, il y a aussi le fait d'apprendre, en fait, en s'engageant, d'apprendre différentes compétences et que ces compétences, après, on puisse les réinvestir quand quelqu'un va céder sa place parce que justement il est trop fatigué ou parce qu'il a d'autres choses à faire, qu'il change aussi d'engagement, de priorité. Et donc donner une place à chacun, en plus de reconnaître la participation et la valeur de chacun, c'est aussi former finalement des militants avec des nouvelles compétences, donc tourner sur qui va prendre la parole en public, qui va animer une réunion, qui va accueillir les nouveaux, et d'avoir ces rotations qui soient bien définies, qui soient, voilà, c'est des fonctions importantes dans un collectif, et tout le monde soit capable de le faire, c'est important pour la durabilité du collectif si il y a des individus qui se désengagent, quoi.
Simon Cotamarx, est-ce que vous avez quand même le sentiment que les collectifs, ils commencent vraiment à mettre en place des dispositifs de soutien aujourd'hui ?
Alors oui, ce qu'on voit, c'est que encore une fois, dans certains secteurs, certains mouvements féministes, écologistes, on voit qu'il y a des débats sur comment on fait pour prendre soin les uns des autres, et puis qui font comme ce que Hélène vient de raconter, hein, ils mettent en place de la prévention, voilà, pour éviter que les gens s'épuisent. Mais depuis très longtemps, en fait, il y a des dispositifs de prendre soin qui existent, hein, dans les autres organisations, notamment les syndicats. Hein. Avant, il n'y avait pas le mot burn-out pour parler de l'épuisement militant. Mmh. Évidemment, il y avait des pratiques qui sont très anciennes. Hélène a évoqué tout à l'heure les caisses de grève, voilà, pour venir, qui offrent un soutien matériel aux personnes qui s'engagent et qui permettent, voilà, de ne pas être plongées dans la précarité complète. Mais il y avait aussi d'autres choses, notamment par exemple le service d'ordre, voilà, pas qu'il y ait une pratique assez ancienne pour protéger les militants contre les violences qui viennent, oui, de l'extérieur.
France Inter. La Terre au carré.
C'est vraiment méconnaître la lutte et le besoin des mouvements sociaux que de penser que parce qu'on a des espaces où on célèbre, où on se donne de la force et où on a l'air joyeux, que c'est contre-productif. En fait, pour pouvoir tenir sur la durée, sur la longueur, on a besoin de se nourrir et d'avoir des espaces qui nous régénèrent. Et la fête, c'est vraiment un moment hyper puissant de célébration.
Les amis, aujourd'hui, comme le 10 septembre, on reprend la rue. Est-ce que vous êtes là ? Ouais !
Planète Boom Boom, ils étaient venus d'ailleurs dans le studio de la Terre au Carré pour que les manifs soient aussi une fête. Hélène Balazar, chercheuse en sciences politiques, Simon Cotin-Marx, vous êtes sociologue et ensemble vous publiez cet ouvrage Burnout militant, comment s'engager sans se cramer. C'est chez Payot. Est-ce que Hélène Balazar voulait rebondir sur Planète Boom Boom, justement ?
Ben oui, je pense que c'est hyper important, les célébrations, les rituels, la fête, la convivialité dans les mouvements sociaux et dans les engagements de tout le monde. C'est important pour plusieurs raisons. Alors, comme le dit la personne qui témoignait, ça permet de se régénérer, de se donner de l'énergie collectivement, mais ça redonne aussi du sens parce que finalement, souvent, quand on s'engage pour un monde meilleur, on s'engage pour un monde plus joyeux. Et faire la fête, c'est un peu préfigurer ce monde plus joyeux vers lequel on a envie d'aller. Ça donne de l'espoir, ça donne envie d'agir collectivement, de se retrouver à plusieurs. Et du coup, on en parle pas mal dans le dernier chapitre du livre. Voilà, c'est remettre de la joie un peu dans ce monde de brut.
Voilà, c'est une façon aussi d'affronter l'hostilité et la répression croissante des mouvements sociaux, Simon Cotin-Marx, parce que ça, c'est aussi une réalité dans le monde militant. Comment ça se manifeste d'ailleurs, ça, aujourd'hui ?
Oui, il y a les travaux de l'Observatoire des libertés associatives, hein, qui sont assez accablants. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de dissolutions d'associations sous le mandat d'Emmanuel Macron que sous tous les autres présidents de la République.
Donc, c'est-à-dire quoi ? Des dissolutions d'associations, effectivement, des coupes de subventions ?
Voilà, exactement. Et puis, on met clairement des bâtons dans les roues dans le mouvement, du mouvement social et dans les associations progressistes en particulier, hein, que ce soit celles qui militent, les personnes qui militent pour la Palestine, les mouvements écologistes, voilà, ou les mouvements aussi de lutte contre le racisme. Voilà, c'est des mouvements qui sont particulièrement ciblés. C'est ce que montrent, encore une fois, les travaux de l'Observatoire des libertés associatives.
Et ça, ce climat, ça fragilise beaucoup les militants aussi ?
Oui, clairement, parce que ça, en gros, évidemment, ça fait peur. Les gens, quand on est président d'une association qui se voit dissoudre, en fait, sa responsabilité est aussi engagée. Ouais, et clairement, c'est une stratégie du ministère de l'Intérieur pour fragiliser ces groupes.
Hélène Balazar.
Et même sans être dissoute, il y a des associations qui sont intimidées, il y a des perquisitions qui sont réalisées chez des présidents d'associations il y a un climat de peur qui s'installe, il y a des menaces qui viennent, alors parfois des préfectures, hein, mais aussi des menaces qui viennent de l'extrême droite, des menaces de mort. Donc voilà, cette répression, elle vient de l'État, mais elle vient aussi d'un mouvement, d'un backlash réactionnaire un peu qu'on observe ces dernières années, et notamment beaucoup drivé par l'extrême droite.
Comment on résiste, alors justement, sans se mettre en danger quand
on
fait ce choix de militer ?
On résiste en n'étant pas isolé. en se mettant en collectif, et c'est notamment pour ça que l'Observatoire des libertés associatives a été créé, et il y a plusieurs associations et mouvements associatifs qui sont dans cet observatoire, et notamment qui ont créé un groupe d'autodéfense associative pour faire face à cette répression. Donc voilà, on résiste collectivement, on s'entraide.
Vous dites se former à ses droits aussi, c'est très important, connaître ses droits.
Connaître ses droits, se faire entourer d'avocats aussi. Alors il y a aussi effectivement pas mal de... notamment les soulèvements de la terre, hein, suite à la répression massive à Sainte-Soline, ils ont produit tout un tas de recommandations avant les manifestations, au cas où vous seriez interpellé et mis en garde à vue pour avoir vraiment tout un tas de conseils, en fait, dont on parle dans le livre, pour comment faire face à une interpellation, là où on ne pense pas, quand on va dans une manifestation, finir en garde à vue quand on est totalement dans son droit. Quoi,
et ça, il faut absolument s'y préparer, parce que psychologiquement, ce sont évidemment des événements extrêmement traumatisants, auxquels effectivement on n'est pas préparé. Donc ça nécessite quand même d'être bien formé sur ces questions.
Oui, il faut être au moins informé, puisque formé quand on va en manifestation, en gros, ce qu'on raconte dans le livre, c'est qu'il faut se préparer à aller en manifestation pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais après, pour se préparer, j'aurais parlé aussi du mouvement des suffragettes, hein, qui est un très vieux mouvement, et il dit qu'il faut se préparer, mais aussi on peut apprendre aussi à s'auto-défendre. Hein, et c'est ce qu'ont fait les suffragettes, notamment au début du siècle, en apprenant le jujitsu, hein, pour savoir retourner la violence de son adversaire. Mmh. Hein, il ne suffit pas juste de connaître ses droits, savoir se défendre, c'est pas mal non plus.
Donc il y a cette notion de joie militante, hein, dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, mais qui est extrêmement importante au cœur de ce sujet du burn-out.
Oui, c'est très important, et il y a beaucoup de collectifs qui le pensent. Alors, on a entendu Cyril Dion qui disait qu'il avait eu besoin de créer
ouais.
Et qu'il a écrit des poèmes. Et il y a beaucoup d'organisations qui le pensent en amont, pour prévenir aussi un peu, finalement, l'épuisement, et qui vont avoir des rituels artistiques lors de tous leurs événements.
Donc ça devient une stratégie politique, en fait,
quasiment. Ça devient une stratégie, hein. Tout à fait. Il y a des organisations comme Equitas qui font beaucoup de poésie, en redonnant sa poésie à la politique. Et qui font des abécédaires poétiques qui commencent tous leurs événements par des poésies. Il y a donc l'organisation, moi, pour laquelle j'avais pas mal travaillé, sur laquelle j'ai fait ma thèse, London Citizens, qui pense vraiment le rituel, la célébration, faire communion, et lors de tous les événements, qu'ils soient petits ou grands, avec plus de 2000 personnes, il va y avoir des spectacles de danse, des chants qui vont être prévus, préparés pour justement créer, en fait, cette joie et cette communion militante.
Allez, on passe aux questions et aux témoignages. Et un premier message de Gwenaëlle qui nous dit « D'expérience, l'énorme pression souvent ressentie par les militants associatifs ne vient-elle pas du fait que la majorité des membres des organes de gouvernance, conseils d'administration, sont majoritairement constitués de bénévoles à la retraite pour qui le temps ne compte pas ?» Qui veut répondre là-dessus? Simon Cotamarx?
Oui, c'est vrai que c'est une particularité des associations, c'est qu'elles sont dirigées par des administrateurs qui sont bénévoles, et en effet, il se trouve que la sociologie de ces personnes, c'est plutôt des personnes plutôt âgées, des cadres, ou en tout cas des gens des classes moyennes supérieures. Après, oui, ce qui est sûr, c'est que ces gens qui s'engagent, qui sont en fin de carrière, ils peuvent mettre une certaine pression à s'engager, notamment auprès des plus jeunes, mais surtout des salariés. Après, pour ce qui est des bénévoles, moi je leur jetterai pas la pierre, hein, parce que c'est quand même des gens qui s'engagent aussi pour changer le monde, et peut-être qu'ils font partie du problème, mais du coup nous on invite à créer des espaces justement pour en discuter et trouver des solutions pour éviter que les vieux mettent finalement la pression aux plus jeunes, quoi.
Ouais, et puis heureusement qu'ils sont là quand même, parce qu'ils font marcher énormément d'associations sur le territoire. Agnès nous dit les bénévoles se réfugient facilement derrière leur statut amateur pour ne pas faire le nécessaire, je suis bénévole c'est déjà beaucoup, sans comprendre qu'ils ont accepté volontairement des engagements qui leur donnent des responsabilités légales.
Alors, c'est vrai pour les conseils d'administration des associations, il y a une responsabilité légale, et ça fait partie aussi des causes un peu de burn-out militant, quand ça se passe mal et qu'il faut gérer, on se retrouve en fait employeur alors qu'on n'est pas rémunéré pour ça, et que, enfin voilà, donc là je retournerai un peu la question, c'est que Il y a énormément d'associations qui reposent sur énormément de bénévoles en France. Hein. On compte plus de 22 millions de bénévoles en France, donc ça concerne énormément de personnes. Mais l'économie de la démocratie, l'économie de la société n'est pas du tout tournée autour de comment prendre soin de ces bénévoles. Donc il faut en fait pas forcément leur jeter la pierre sur le fait qu'ils découvrent qu'ils ont cette responsabilité, qu'ils n'ont pas... En fait, la société n'a pas été pensée pour pouvoir faire ça. Donc il faudrait essayer d'avoir plus de droits pour les bénévoles. Il y a des droits de congés citoyens qui existent pour les membres de conseils d'administration, mais ils sont sans solde la plupart du temps.
Allez, une question au sociologue de la part de Victoria. Est-ce que le burn-out touche plus les femmes que les hommes? Ne pas oublier aussi, dit-elle, le militantisme syndical qui peut conduire au burn-out.
Oui, donc le burn-out militant touche aussi bien le monde associatif que partisan, que syndical. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ensuite, malheureusement, on n'a pas de chiffres sur qui fait un burn-out bénévole. Donc, on ne peut pas mesurer si les femmes sont plus exposées que les hommes. Mais en effet, de toute manière, ce qu'on sait du monde du travail, déjà, nous amène quand même à penser que les femmes sont plus exposées. Hein, parce que c'est souvent sur elles que repose aussi cette question de prendre soin des uns des autres, prendre soin notamment des victimes, et du coup, elles sont plus exposées à ces souffrances.
Et puis un dernier message d'Hélène en réaction sur la place des enfants dans toutes les grandes actions des soulèvements de la Terre. Désormais, il y a une bambinerie qui est prévue, des adultes volontaires et des parents qui s'occupent des jeunes enfants de la crèche à la maternelle.
Eh bien, bravo. Bah, c'est ce genre de pratique qu'on essaye de mettre en avant dans ce livre qui, en fait, retranscrit une culture militante en train de se construire pour prendre soin des militants, pour pouvoir prendre soin de la société.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Comment s'engager sans se cramer? Ça s'appelle Burnout militant. Vous signez ce livre, Hélène Balazar et Simon Cotin-Marx, aux éditions Payot. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à Lucie Sarfati qui a préparé ce dossier. Nicolas Delmas qui était à la technique.